Bienvenue à tous en ce dernier jour de la fête, un jour qui représente la seconde résurrection et qui est si important pour nous tous. Il montre la justice de Dieu et nous donne de l'espoir quant à tous nos êtres chers. C'est très réconfortant pour nous tous. L'un des premiers sermons que j'ai entendu à ce sujet, sur le dernier grand jour, s'est déroulé à Squaw Valley, en Californie. C'était en 1964 ou 1965. Le ministre parlait du fait que certains de ceux qui étaient là, cette année-là, n'y seraient plus l'année suivante. Il ne disait pas que ces gens iraient à un autre site de fête. À l'époque, nous n'avions que Big Sandy et Squaw Valley. Il y avait peut-être aussi Jekyll Island en Géorgie, je n'en suis pas sûr. Il se peut que nous ayons eu Jekyll Island en Géorgie. Quoi qu'il en soit, il y avait peu de possibilités de transfert à l'époque, parce que les distances étaient grandes, l'économie du pays n'était pas aussi forte qu'elle l'est devenue plus tard. Les gens ne transféraient donc pas beaucoup de sites. Il disait que certains allaient tomber. Dans l'Église de Dieu de l'époque, vous ne pouviez pas simplement changer de rue et trouver une autre Église de Dieu. Si vous étiez en colère contre votre ministre ou contre quelqu'un de la congrégation, vous ne pouviez pas aller ailleurs. Il y avait vraiment un seul endroit en ville, pourrait-on dire. La vérité était prêchée dans ce qu'on appelait la Radio Church of God, devenue plus tard l'Église universelle de Dieu, parce que nous étions devenus une Église mondiale. Dans ce sermon, je vais vous montrer que si Dieu nous donne un temps pour surmonter nos faiblesses, il est si compatissant envers nous. Nous avons en ce sens des secondes chances, des chances de changer, d'agir différemment de ce que nous faisions avant. Mais le jugement du grand trône blanc n'est pas une seconde chance de salut, comme certains le disent ou nous accusent de dire. Si nous comprenons pleinement la vérité de Dieu, si nous sommes réellement en lien avec Dieu, notre chance à nous, c'est maintenant. C'est exactement ce que Paul dit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Reportons-nous à 2 Corinthiens 6. Ceci a peut-être été abordé aujourd'hui dans la prédication. Mais je veux en souligner la perspective. Il parlait aux Corinthiens. Il citait l'Ancien Testament, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Il dit, « Je vous supplie de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, l'appel qui vous a été donné, le pardon de vos péchés, l'occasion de faire partie de sa famille. » Il dit, « Ne prenez pas cela à la légère en risquant de tout perdre, car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » C'est une citation de l'Ancien Testament. Ésaïe, chapitre 49, verset 8. Il poursuit en disant, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour de salut. » Il utilise la citation pour l'expliquer aux gens qui se trouvent à Corinthe. Il dit, « Sachez que c'est maintenant votre heure, votre jour de salut. » En fait, il y a plus qu'un jour de salut. Il y a un jour de salut pour ceux qui sont appelés aujourd'hui. Et comme nous le voyons en ce dernier grand jour, il y aura un temps de salut offert à tous ceux qui ont vécu au cours de l'histoire. Mais pour les Corinthiens, il dit, « Voici maintenant le jour. » Pour vous, c'est maintenant. Il n'y a pas d'autre temps. C'est maintenant. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour de salut. C'est pourquoi il dit, nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Il leur montrait que leur moment de salut était venu. Le jugement du grand trône blanc n'est pas une seconde chance, mais il y a une seconde mort. C'est à peu près la seule fois où nous faisons référence à ce dernier verset du livre d'Apocalypse au chapitre 20. En ce jour, nous y faisons habituellement référence pour montrer qu'il y a une troisième résurrection. Certains sont confus à ce sujet et ils disent, il n'est pas dit qu'ils sont ressuscités Au cours de votre vie, si vous avez volontairement rejeté Dieu, vous serez jeté dans l'étang de feu, la seconde mort. Vous devrez alors être en vie, car la seule façon pour vous d'être jeté vivant dans l'étang de feu pour y mourir, c'est d'avoir été ressuscité. Reportons-nous à Apocalypse, chapitre 20. Versets 14 et 15. Nous lisons ici qu'il y aura une résurrection pour le châtiment. Verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ces gens seront tout simplement brûlés. La dernière partie du livre de Malachie le décrit. Ils deviendront de la cendre sous la plante des pieds des justes. C'est le sort de ceux qui se seront détournés de Dieu. Dans Hébreux 10, verset 26, il est écrit: car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Oui, il y a un péché impardonnable. C'est quand nous nous détournons de Dieu volontairement. Pécher volontairement, c'est rejeter consciemment Dieu en toute connaissance de cause. Il ne s'agit pas ici de péchés commis dans des moments de faiblesse, ce que nous savons tous que nous avons fait. Nous commettons des erreurs, nous savons mieux faire, mais nous continuons à pécher. Même l'apôtre Paul a dit, « Ce que je ne veux pas faire, je finis par le faire, et ce que je veux faire, parfois je ne le fais pas. » Nous comprenons cela. Mais il s'agit ici de se détourner volontairement de Dieu. Il dit que dans ces cas, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, verset 27, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce, l'Esprit de pardon, le pardon immérité que Dieu nous accorde. Nous trouvons ceci dans 1 Timothée, chapitre 2, 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Il est dit, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Il se peut que ce passage ait été lu plus tôt, mais le fait est que Dieu appelle tout le monde à un moment ou à un autre. Dieu va donner une chance à tout le monde. Mais il dit aussi au verset 4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le mot « connaissance » ici est un mot spécial. Ce n'est pas le même mot qui est utilisé pour désigner la connaissance partout dans l'Écriture. Il s'agit d'un discernement complet. Le mot est « épignosis ». D'après l'annexe 132 de la Companion Bible, il est dit « connaissance précise et plus approfondie ». Il ne s'agit pas d'une connaissance superficielle de la vérité, mais d'une connaissance précise, plus approfondie, une perception profonde de la vraie connaissance. Le mot « gnosis » signifie « connaissance », mais « épignosis » a trait à une compréhension plus poussée, à une compréhension approfondie. Ou, comme il est dit ailleurs dans Strong, que je ne recommande pas toujours néanmoins, il s'agit d'un discernement complet. C'est la raison pour laquelle j'ai consulté la Companion Bible pour voir que ce terme ne se limite pas à ce que dit Strong, mais que d'autres sources soulignent qu'il s'agit d'un discernement complet. Ainsi, quand il dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une connaissance approfondie, à une pleine connaissance de la vérité, cela montre que Dieu va donner à chacun une pleine chance pas seulement une chance passagère d'avoir entendu le nom de Jésus, mais une pleine connaissance de ce que Jésus-Christ a enseigné et de ce qu'il était. Dans Hébreux 6, il précise très clairement qu'il ne s'agit pas d'une simple approche superficielle de la vérité, mais qu'il s'agit d'une véritable opportunité. Hébreux 6, 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Il indique donc qu'il s'agit de quelqu'un qui est parvenu à vraiment comprendre, qui a eu une chance pleine et entière et qui a peut-être parcouru un certain cheminement, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés. Verset 6. Soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Ils étaient donc apparemment parvenus à la repentance à un moment donné. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre, abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Cela montre très clairement qu'il s'agit d'un véritable détournement de la compréhension de la vérité. Nous ne devons donc pas marcher animés d'une grande peur en pensant que chaque fois que nous commettons une erreur, chaque fois que nous péchons, c'est la fin de tout si nous nous en repentons. Souvent, nous ne réalisons même pas avoir péché. Nous ne pouvons évidemment pas nous repentir de chaque péché que nous avons commis sans le savoir. Nous le faisons par inadvertance. Mais nous devons avoir une attitude de repentir, une attitude de soumission à Dieu, un désir de vivre selon le mode de vie de Dieu. C'est vraiment ce que nous disent les Écritures, si nous les examinons, ainsi que la grâce de Dieu. Il n'attend pas de nous que nous marchions toujours dans la peur. Mais si nous nous détournons, connaissant les enjeux, en disant « Je ne veux pas suivre Dieu, je préfère faire quelque chose de différent », c'est très dangereux. Selon le Christ, les pharisiens et les autres chefs religieux de l'époque étaient très près de franchir cette ligne. Il n'a pas dit qu'ils avaient franchi la ligne, mais il a certainement indiqué qu'ils en étaient très proches. Lorsqu'ils l'ont totalement rejeté, dans certains cas, ils ont pu franchir cette ligne. Mais Dieu est très miséricordieux. Le Christ l'a même dit, « Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font. Bien sûr, c'était le cas de certaines personnes. D'autres, qui en savaient plus, allaient être tenus responsables de plus de choses, sans aucun doute. Dans sa brochure « Les jours saints, le magistral plan divin », le docteur Meredith fait cette remarque. Il dit que des millions de personnes, il parle de ceux qui reviendront à la vie dans la seconde résurrection, pourront saisir la vérité avec zèle lorsqu'ils la comprendront pleinement. Ils deviendront peut-être meilleurs chrétiens, meilleurs serviteurs de Dieu que beaucoup d'entre nous, qui prenons parfois la précieuse vérité de Dieu pour acquise, n'étant pas aussi zélés que nous devrions l'être. En fait, il explique que certaines de ces personnes qui n'ont pas été appelées aujourd'hui seront peut-être beaucoup plus zélées que certains d'entre nous qui ont été appelés et qui ont reçu tant de bénédictions jusqu'à présent. Dans Matthieu 7, que nous connaissons bien, Matthieu 7, versets 21 à 23, nous le citons souvent, mais il est bon de le rappeler. Matthieu 7, versets 21 à 23, il dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il est facile pour nous de penser que cela parle des ministres du monde et des gens dans le monde, des gens impliqués dans le faux christianisme. Mais nous devons prendre cela au sérieux et l'examiner à un niveau personnel. Cela s'adresse aussi à nous. C'est tout à fait vrai. Ces paroles du Christ s'adressent à ses disciples et aux croyants. Il dit, « Vous pouvez m'appeler Seigneur, mais si vous ne faites pas la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, vous ne serez pas dans le royaume. Vous en serez chassés. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Des milliers de personnes ont entendu ce sermon, ce jour-là, à la fête. Plusieurs milliers. Nous avions habituellement environ 6000 personnes présentes à Squaw Valley. Plusieurs milliers de personnes ont entendu ce sermon à l'époque. Et combien d'autres ont entendu des sermons de ce genre au fil du temps? Ils faisaient partie de ce qu'on appelait l'Église universelle de Dieu. Quand on y pense, nous avions environ 156 000 personnes, peut-être même 158 000, qui célébraient la fête des tabernacles chaque année dans de nombreux endroits du pays et du monde. Mais où sont ces personnes? Cet avertissement s'adressait-il uniquement au monde? Ou était-ce également un avertissement pour nous? Certains de nos ministres qui ont oint des gens ont fait des miracles. Bien sûr, c'est Dieu qui l'a fait, mais il l'a fait par leurs mains. Certains de ces hommes peuvent arriver et dire, « Eh bien, nous avons fait beaucoup de choses merveilleuses. » Il leur dira, « Je ne vous ai jamais connu, car vous êtes des ouvriers d'iniquité. Vous n'observez pas la loi de Dieu. Vous m'avez rejeté. » Dans Matthieu, chapitre 25, Matthieu 25, nous avons la parabole des talents. Je vais commencer au verset 24. Je ne vais pas tout couvrir ici. Mais celui qui avait reçu un seul talent, nous savons qu'il a donné 5 talents à une personne, 2 talents à une autre et 1 talent à celle-ci. Chacun d'eux a multiplié ses talents, les a fait valoir, à l'exception de cet individu. Celui-ci a répondu au Christ, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. C'est presque comme s'il disait, regarde, j'ai sauvé, j'ai préservé. Je sais que tu es dur, alors j'ai protégé ce que tu avais. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Puis il dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Celui qui a multiplié son talent par 10, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et remarquez, verset 30, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est un avertissement pour nous tous, si nous ne faisons pas ce qu'il faut. Avec ce que Dieu nous a donné. Si nous nous contentons de venir aux assemblées, d'être baptisés, de faire maintenant partie de l'Église, de réchauffer un siège chaque semaine, de nous montrer amicaux, d'apprendre à connaître d'autres membres et de parler de la fête en disant « Où allez-vous cette année? Oh, c'est un site magnifique, il y a une plage, nous aimons beaucoup cette région. Vous savez, l'an prochain, nous irons dans un endroit où nous ne sommes jamais allés. Nous irons en Australie ou en Nouvelle-Zélande ou en Thaïlande, dans un endroit exotique. » Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas vraiment suffisant. Je ne sais pas de dire que nous pouvons gagner notre place dans le royaume de Dieu. Évidemment, c'est impossible. C'est par grâce. C'est le pardon immérité. Nous ne méritons rien d'autre que la mort. C'est ce que nous avons gagné en péchant. Mais Dieu nous a pardonné. Il a effacé ses péchés au baptême. Il les a éloignés aussi loin que l'Occident est éloigné de l'Orient. C'est une merveilleuse bénédiction. Mais ici, il dit, « Je vais vous donner quelque chose. » C'est peut-être une analogie concernant l'Esprit de Dieu. Je l'ai déjà entendu. « Je vais vous donner une mesure de l'Esprit de Dieu. Qu'allez-vous en faire? Allez-vous l'utiliser pour croire? Ou bien allez-vous vous asseoir et vous reposer sur vos lauriers? Frères, nous devons prendre cela au sérieux, parce que l'histoire montre que des dizaines de milliers de personnes qui se sont assises à la fête, qui ont entendu des sermons du dernier jour, comme celui-ci, comme celui que vous entendez en ce moment, ont fini par tomber. M. Herbert Armstrong avait l'habitude de dire « Je ne pense pas que la moitié d'entre vous ait compris ». Parfois, il disait avec force « Je ne pense pas que 10% d'entre vous ait compris ». Son exemple des 10% était peut-être plus proche de la réalité que celui des 50%. Alors, frères, je vous exhorte à prendre au sérieux votre appel et votre élection. Dieu nous a appelés. Il nous choisit lorsqu'il nous place dans sa famille par le baptême et en nous donnant son esprit. Mais nous devons rester fidèles et croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En lisant la brochure « Aujourd'hui est-ce le seul jour de salut » du docteur Meredith et aussi les jours saints, le magistral plan divin, j'ai remarqué qu'il y citait plus d'une fois 2 Pierre 3, 18, où il est question de croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ce que nous devons faire. Il ne faut pas que nous soyons la même personne dans 5 ans qu'aujourd'hui, ni même dans 1 an. Mais comme un arbre, la croissance est lente. Si vous regardez un arbre et que vous attendez qu'il grandisse, vous resterez là pendant longtemps et vous ne vous en rendrez probablement même pas compte, tant la croissance sera lente. C'est un peu comme lorsque vous voyez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui a des enfants qui n'étaient que de petits enfants et qui tout à coup vous regardent de haut parce qu'ils sont plus grands que vous. Mais si vous êtes là avec eux tous les jours, vous ne remarquez pas autant cette croissance qui se produit. Mais après une longue absence, on reconnaît que cette personne a vraiment grandi au cours de la dernière année ou des 2 ou des 5 dernières années, peu importe. Nous devons donc croître. Ce n'est pas toujours en ligne droite. Parfois, nous croissons et vient un certain plateau, puis la croissance reprend. Mais nous devrions être sur une trajectoire ascendante de croissance, de changement, être de moins en moins le moi charnel que nous avons été, et ne pas être comme les gens du monde qui ne grandissent pas du tout. Bien sûr, ils mûrissent à leur manière et ils peuvent être en train de devenir de meilleures personnes aussi. Mais nous devons reconnaître que nous devons changer. Nous devons devenir une nouvelle personne. Dans Matthieu chapitre 8, verset 5, vous savez, je l'ai mentionné déjà, j'ai appris lorsque j'étais au Royaume-Uni que les doigts perdent leurs empreintes au fil du temps. C'est pourquoi les personnes âgées font toutes sortes de choses comme se lécher les doigts pour séparer les pages, comme je le fais, ou parfois elles prennent le livre et souffrent dessus pour séparer les pages, parce que le bout de vos doigts, vos empreintes digitales, s'usent avec le temps. Ainsi, lorsque vous posez votre pouce ou votre doigt pour prendre vos empreintes digitales, ils doivent parfois changer de doigt parce que ces empreintes ont diminué. C'est l'une des choses intéressantes de la vie. Écoutez, cela n'a rien à voir avec mon sujet, si ce n'est que j'ai du mal à tourner les pages et que je cherche une excuse. Mais ici, dans Matthieu 8, verset 5, il est dit « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, verset 8, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Quelle attitude incroyable avait ce centurion. Vous savez, un centurion était quelqu'un qui avait de l'autorité. Il pouvait commander à quelqu'un de faire ceci, à un autre de faire cela. Néanmoins, il s'approcha du Christ avec une attitude extrêmement humble. C'est un exemple que nous avons besoin de suivre. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Il comprenait l'autorité. mais ils comprenaient aussi où ils se situaient par rapport à Jésus. Après l'avoir entendu, verset 10, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Même dans son peuple, il n'avait pas trouvé cette sorte de foi. Nous ne savons pas d'où venait le centurion. Il pouvait être romain, il pouvait être grec, il aurait pu être, qui sait, parce qu'il y avait tellement de nations différentes qui étaient sous les Romains. Et différents individus s'enrôlaient à leur service. Mais qui qu'il ait été, Dieu ne le révèle pas. Il mentionne centurion. Mais il ne dit pas d'où il vient. Apparemment, il ne venait pas d'Israël. Il n'était pas juif. Il dit donc, « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu. Mais les fils du royaume, il parle ici des Juifs, des Israélites, mais spécifiquement des Juifs, les fils du royaume, ceux qui ont reçu la vérité, ceux qui possèdent les oracles vivants, pourrait-on dire, seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il ne dit pas tous les Juifs ou tous les gens d'Israël qui se trouvaient à cet endroit, mais il dit simplement que des gens viendront d'Orient, d'Occident, du Nord et du Sud, de partout dans le monde, et ils accéderont à la vérité. Mais les fils du royaume, certains de ceux qui ont l'immense privilège de connaître la vérité, vont passer à côté du but. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous savez, je crois qu'il y aura des dizaines de milliers de personnes qui seront dans cette catégorie. Des gens qui ont, un jour, connu la vérité, qui ont tourné le dos à la vérité. Pleurs et grincements de dents. Cela s'applique à quelqu'un. Espérons que beaucoup de ces gens qui faisaient partie de l'Église universelle de Dieu, qui sont tombés par dizaines de milliers, il faut espérer que beaucoup d'entre eux n'ont pas vraiment compris, qu'ils n'ont pas eu l'occasion pleine et entière mentionnée dans Hébreux chapitre 6 ou dans Timothée, où il est question d'une pleine compréhension. Espérons qu'ils appartiennent à cette catégorie. Il ne sert à rien, ni à vous ni à moi, d'essayer de spéculer sur le sort d'une personne. La décision ne nous appartient pas, et nous ne savons pas toujours ce qu'il y a dans le cœur, et nous ne savons pas pourquoi les gens se détournent. Un homme m'a dit, « Vous savez, je n'ai jamais vraiment compris. Je suis venu à l'Église à cause de ma femme. » Peut-être qu'il rationalisait, peut-être que c'était la vérité. Je n'en sais rien. Mais vous devez vous demander combien de personnes ont simplement suivi, peut-être parce qu'elles avaient peur de la tribulation à venir et voulaient un moyen d'échapper. Certains ont suivi un conjoint pour venir à l'Église et ont suivi un conjoint pour quitter l'Église. Nous ne savons pas où ils en sont. Mais cela s'applique à quelqu'un. Certaines personnes vont tomber dans cette catégorie parce qu'il est dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y aura des gens qui, pour ainsi dire, s'en voudront d'avoir reçu ce qu'ils ont reçu, de s'en être détournés et d'avoir par conséquent tout perdu. Considérez le privilège d'avoir été appelé, le privilège de comprendre ces merveilleuses vérités, y compris le fait que Dieu veut donner à chaque être humain qui a vécu une possibilité pleine et entière de choisir sa voie et d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. C'est une vérité que la plupart des gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens s'imaginent que Dieu va les sauver d'une manière ou d'une autre, que s'ils sont une bonne personne selon eux, ils seront dans le royaume. Mais à bien y réfléchir, il n'y a pas beaucoup d'espoir dans les cercles religieux. Il est intéressant de noter les réactions à un article écrit par M. Ames sur le sujet, montrant qu'il y a un espoir et que Dieu ne brûlera pas tout le monde dans le feu de l'enfer pour toujours et à jamais. Il fallait voir les fortes réactions négatives suite à cet article. Nous avons reçu des lettres et des appels téléphoniques de personnes irritées parce que les gens aiment le feu. Ils veulent que tout le monde brûle, sauf eux-mêmes. C'est incroyable. Je me souviens qu'un jour, à la Nouvelle-Orléans, lors d'une présentation en présentiel, 2 ou 3 000 personnes étaient venues à ce moment-là. Cela remonte au début des années 70. Je ne me souviens pas de l'année exacte, 72, peut-être 73. Un homme distribuait de la documentation à l'extérieur et parlait des gens qui iraient en enfer. J'étais avec un ministre et il a dit à l'homme, « Laissez-moi vous aider. » Il en a pris une poignée. Il n'aurait pas dû être là à distribuer de la littérature. Les gens venaient pour nous voir, non pour le voir. Il a dit, « Laissez-moi vous aider. » Bien sûr, il les a détruits. Ce n'était que de petits tracts bon marché. Il a dit à l'homme, « Tout d'abord, il est évident que vous aimez le feu. » Cet homme voulait que tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, qui n'étaient pas d'accord avec le christianisme que lui concevait, soient détruits par le feu. Des gens y croient vraiment, mais que font-ils de leurs proches? En font-ils une exception? Ou sont-ils littéralement traumatisés en pensant que leur mère, leur père, un frère, une sœur, une épouse ou un mari ou des enfants vont brûler pour toujours? N'oubliez pas que c'est une merveilleuse vérité que Dieu nous a donnée à vous et à moi. J'espère que nous ne la tenons pas pour acquise. Je ne pense pas que nous le fassions, mais il est parfois facile de le faire, d'oublier la signification incroyable de cette journée d'aujourd'hui. Après l'avoir célébrée pendant 10, 20, 30, 40 ou 50 ans et même davantage, comme c'est le cas pour certains d'entre nous, considérez le privilège auquel vous avez été appelés. Lors de la Pâque, nous reconnaissons que Jésus-Christ est notre Sauveur. Dans le monde, cela est compris d'une certaine manière. Des choses manquent dans le christianisme à ce sujet. Mais en général, le monde reconnaît que Jésus est venu payer l'amende pour nos péchés. Mais n'y pensons pas en comparaison avec le monde, mais pensons-y en termes personnels. Toutes les fautes que j'ai commises, toutes les fautes que vous avez commises, le Créateur, celui que Dieu a utilisé pour créer toutes choses, visibles et invisibles, qu'il s'agisse de principautés ou de dignités, etc., mentionné dans Colossiens chapitre 1, celui qui a fait tout cela, celui qui a conduit les enfants d'Israël au désert, qui a tonné de sa voix les 10 commandements, celui-là est venu et a donné sa vie en échange de la nôtre, afin que nous ayons la vie. Parce qu'autrement, il n'y avait aucun espoir pour nous. Nous serions morts, morts à jamais. Nous aurions vécu nos vies, en appréciant certaines parties, en vivant aussi la souffrance, comme tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Puis la fin arriverait, la noirceur, l'obscurité pour toujours. D'ailleurs, c'est probablement lorsqu'une personne approche la fin de sa vie, qu'elle apprécie pleinement, si elle l'apprécie, ce que Dieu a fait pour elle, si elle le comprend. Pour ce qui est des évolutionnistes ou des athées qui ne croient pas en Dieu, je suppose que la perspective est assez sombre. Déprimant de croire que tout ce que j'ai eu s'en va et que je n'aurai plus jamais aucune pensée, tout aura disparu. Et pourtant, les gens veulent vivre. Ils veulent vivre éternellement. Bien qu'ils ne veulent vivre éternellement que s'ils sont en bonne santé. Mais la Pâque nous montre que Jésus est notre Sauveur. Par le baptême et l'acceptation du sacrifice de Christ, nos péchés sont pardonnés. N'oublions jamais ce que cela signifie. Quelle fête puissante en ce sens que celle que nous célébrons au printemps. La Pâque. Considérez ceci. Vous n'avez pas à multiplier de petits gestes traditionnels. Plusieurs dans ce monde, bouddhistes, hindous, catholiques, ont des pratiques traditionnelles. Même les Juifs ont leurs coutumes. Ils font des courbettes en répétant des prières encore et encore. Ils cherchent à obtenir les faveurs de Dieu. Ils essaient d'expier leurs péchés autrement qu'en acceptant le sacrifice du Christ. Quand je dis simplement accepter, cela signifie que nous devons répondre à ce sacrifice et que nous devons faire quelque chose. Ce que nous voyons au cours des jours des pains sans levain. Mais pas de rituel non biblique. Pas de prière répétitive où la pensée s'égare. Nous avons étudié le catholicisme, par exemple, au Collège Ambassadeur. J'ai toujours trouvé que c'était un sujet très fascinant, la religion comparative, où l'on comparait le protestantisme et le catholicisme, et où l'on comparait tout cela avec la vérité. Au bout d'un certain temps, J'ai posé la question, qu'est-ce que le sacrifice du Christ a fait pour les catholiques? Je n'essaie pas de parler d'une religion en particulier, mais c'est la réalité. Qu'est-ce que le sacrifice du Christ a fait pour les catholiques? Ils croient qu'ils doivent faire pénitence, qu'ils doivent multiplier les gestes, dire tant de Notre Père, tant de Je vous salue Marie, etc., peut-être donner une offrande ou faire quelques bonnes œuvres. Mais ils croient que la plupart des gens doivent passer par le purgatoire. En d'autres termes, malgré tous leurs usages répétitifs et toutes les pénitences qu'ils s'imposent, ils n'ont probablement pas encore payé leurs dettes, selon eux. Ils passeraient donc par le purgatoire, cet espace entre le paradis et l'enfer, où ils expieraient le reste de leurs péchés. Donc, si Tante Marie est au purgatoire, si je suis catholique et que je pense cela, alors je prie pour qu'elle sorte du purgatoire. Mais je ne saurai jamais quand elle en sortira. Alors je continue à faire toutes ces choses encore et encore, en me demandant toujours, est-ce que c'est suffisant? Est-elle sortie du purgatoire? Et vous faites cela pour tous vos proches. Et il n'y a jamais de fin à la pénitence que les gens font dans ces circonstances. Comme je l'ai dit, le judaïsme n'est pas si différent. En fait, Paul parle des œuvres de la loi et de tout ce que les Juifs faisaient. C'est la même chose. Ils pensaient pouvoir se sauver par leurs actions en étant circoncis et tout ce que cela impliquait et toutes leurs lois et règles ajoutées qu'ils devaient respecter. Ils pensaient qu'ils seraient assez bons s'ils les respectaient le plus parfaitement possible. Et pourtant, humainement parlant, nous savons que nous ne sommes jamais à la hauteur. C'est un don extraordinaire que Dieu nous a fait de connaître Jésus-Christ en tant que notre sauveur, mais aussi de savoir qu'il n'est pas un sauveur pour nous faciliter la tâche et que nous n'ayons rien à faire. Si vous n'avez pas de part ou de responsabilité dans une organisation ou dans un événement, vous n'appréciez pas vraiment. C'est comme pour le camp d'été. J'encourage vraiment les parents à faire travailler leurs enfants afin qu'ils gagnent de l'argent pour qu'ils puissent aller au camp. Ils ont besoin peut-être d'aide supplémentaire car les frais de transport peuvent parfois être importants. Il y a aussi les frais de séjour, les vêtements à acheter et tout le reste. Mais lorsqu'on est un peu impliqué dans l'événement, on l'apprécie beaucoup plus. Vous y allez et vous appréciez ce que vous recevez parce que vous y avez mis du vôtre. Vous vous êtes investi. De même, Dieu ne nous privera pas de ce merveilleux privilège de participer à tout ce processus. Nous savons que nous ne pouvons pas réussir sans lui, mais nous pouvons influencer notre récompense. Nous sommes récompensés en fonction de nos œuvres. C'est donc une chose merveilleuse de savoir que le Christ a payé l'amende, mais ce n'est pas un salut à rabais, comme on le dit parfois. Dans Romains, chapitre 6, Romains, chapitre 6, versets 5 à 9, il dit, maintenant l'espoir, c'est Romains, je suis désolé, le sixième chapitre, Romains 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, c'est ce qui se passe quand nous sommes baptisés. Les versets précédents parlent du baptême et comment faire mourir le vieil homme. Il dit, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, si nous sommes prêts à faire mourir le vieil homme, l'ancienne façon de faire les choses, vous savez, voici comment je pense. Lorsque nous disons, voilà comment je vois les choses, quand on dit ça, c'est là que nous devons arrêter. Nous devons nous poser la question, comment Dieu voit-il les choses? Et Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons la plupart du temps. Espérons qu'avec le temps, nous commencerons à penser davantage comme il pense. Mais très souvent, lorsque nous disons, voilà comment je vois les choses, ce n'est pas la façon dont Dieu les voit. Il dit donc, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme, le vieil individu, la façon dont nous étions autrefois, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous ne devrions plus être liés à l'esclavage du péché. Mes frères, je vois cela si souvent. Je peux me regarder dans le miroir et voir mes propres lacunes à ce sujet. Il est facile de penser, « Eh bien, j'ai été baptisé, je fais ceci, je fais cela, je paie ma dîme, je ne mange pas d'aliments impurs, je respecte le sabbat. » Mais essayons-nous vraiment de changer? Non pas pour gagner notre place dans le royaume de Dieu, mais pour reconnaître que nous voulons être comme Jésus-Christ. Je veux vivre comme lui. Je veux avoir cette perspective, ce caractère parfait que je ne peux pas avoir au cours de cette vie. Mais avec son esprit en moi, je peux changer et je peux être différent. Plus je ressemble au Christ, moins il y aura de problèmes, du moins en ce qui concerne les problèmes résultant du péché. Car le péché entraîne toute une série de problèmes. J'espère que vous avez ce désir profond de ressembler davantage à Jésus-Christ et de ne pas vous contenter de penser « Je suis ici, j'ai été baptisé, je suis dans l'Église. » Ce n'est tout simplement pas suffisant. Car celui qui est mort, c'est le verset 7, est libre du péché. Non pas libéré pour péché, mais libéré du péché. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, si nous faisons mourir ce vieil homme dans l'eau du baptême, que nous le maintenons, pour ainsi dire, sous l'eau, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. En ce sens, lorsque nous avons été baptisés, que nous avons reçu le Saint-Esprit, que nous nous efforçons de mener une vie selon Dieu, jour après jour, et que nous implorons le pardon de Dieu lorsque nous péchons, demandant même son pardon pour les fautes que nous ignorons avoir commises, nous vivons alors dans un esprit de repentance. Nous pouvons ainsi marcher très confortablement, frère. Nous pouvons être à l'aise dans le sens où nous savons que nous n'avons pas à craindre chaque jour en nous disant « Je me demande si je vais y arriver ». Non, nous pouvons être sûrs que nous y arriverons, étant quand même conscients que nous pourrions tout gâcher si nous abandonnions. Mais tant que nous nous efforçons d'être obéissants à Dieu, comme l'apôtre Paul qui dit « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas » et qu'il dit « Qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Puis il parle de l'Esprit de Dieu, du Christ, qui vit sa vie en lui. Le chapitre 8 est vraiment très encourageant. Romains 8, parce qu'il dit au verset 6, « Et l'affection de la chair, c'est la mort, si nous vivons selon ce monde. Voilà comment je vois les choses, et voilà ce que je veux. » Tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix, avoir une mentalité selon l'Esprit de Christ. Car l'affection de la chair est inhibitée, en désaccord contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mais remarquez le verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Bien sûr, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Nous soumettre aux incitations de Dieu qui nous viennent à l'esprit lorsque nous lisons ou lorsque nous en entendons parler. La Pâque nous permet de reconnaître le Christ comme notre Sauveur. Mais les pains sans levain nous enseignent que le péché est une servitude, un esclavage, et que nous devons faire notre part pour vaincre le péché et ses multiples conséquences. Dans la brochure du docteur Meredith, « Aujourd'hui, est-ce le seul jour de salut ?» À la page 6, il dit « C'est par le vide spirituel, la misère physique et morale que l'humanité est en train d'écrire, dans la souffrance, la leçon que les voies détournées de l'homme sont mauvaises. » C'est ce que nous voyons dans le monde. Ils suivent leur propre voie, et celle-ci s'avère toujours mauvaise. Nous avons un outil incroyable, l'intelligence artificielle, qui pourrait servir comme un outil merveilleux. Mais nous voyons déjà de plusieurs façons comment c'est utilisé de manière négative, pour tromper. Sans entrer dans les détails, je pense, et beaucoup en sont conscients, que nous en viendrons au point où l'on ne saura plus ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas dans ce que l'on trouve sur Internet. Plusieurs de ces histoires sont totalement fausses et nous ne le savons pas toujours. Nous avons peut-être consulté la source, mais celle-ci cite une autre source qui elle-même cite une autre source qui a été inventée de toutes pièces. C'est là que cela va devenir un désastre, parce que l'homme transforme toujours ce qui est bon en quelque chose de mauvais. C'est notre façon charnelle de faire, notre animosité envers Dieu et tout ce qu'il pense. Par conséquent, nous voyons les choses différemment et nous nous mettons dans le pétrin régulièrement. Dans 2 Pierre, nous voyons sa réflexion au chapitre 2. Il parle du fait que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché et qu'il n'a épargné que 8 personnes à l'époque de Noé. Il a réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre en exemple pour tous ceux qui, par la suite, vivraient dans l'impiété. Puis au verset 18, il dit « Avec des discours enflés de vanité, de grands discours avec des paroles pompeuses, pourrait-on dire, mais vides. Ils amorcent par leur convoitise de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes, qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté. » N'est-ce pas là toute la révolution sexuelle, cette liberté? Vous n'avez pas à être limité par ces lois désuètes, parce que nous sommes libres, libres de faire ce que nous voulons. L'amour libre, ce n'est jamais libre de conséquences. Il y a toujours un coût à payer, et parfois les coûts sont très élevés, y compris la perte de la vie. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Les personnes qui promettent ces choses, qui encouragent les autres à faire ces choses, sont elles-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il s'agit donc de servitude. Il dit après, « Si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux ne pas avoir connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur a été donné. C'est pourquoi Dieu permet que le monde soit encore séduit. Pour l'instant, il ne travaille pas avec toute l'humanité, que le diable pourrait tromper de telle sorte qu'ils soient tous perdants ou très nombreux à l'être. C'est la raison de ce dernier grand jour. Il réserve les gens en vue de ce jour. Il dit, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Vous savez, la Pentecôte nous enseigne que le Christ peut et doit demeurer en nous par la puissance du Saint-Esprit. Nous connaissons bien le passage de Galates 2:20, qui était le passage favori du docteur Meredith. Il pensait que c'était la meilleure description d'un vrai chrétien, quelqu'un qui est mort à ce monde, qui a mis à mort le vieil homme et qui permet à Jésus-Christ de vivre en lui. Nous vivons par la foi, non pas en, mais la foi du Fils de Dieu, la foi de Jésus-Christ, la foi de Jésus-Christ en nous, alors que nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu. Hébreux, chapitre 8, parle de la façon dont il écrit sa loi dans nos cœurs et nos esprits. C'est exactement ce qui se passe en ce moment même, sous la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance sera conclue plus tard avec Israël et Juda. Mais nous sommes maintenant sous les termes de la Nouvelle Alliance, et Dieu écrit ses lois dans nos cœurs et nos esprits. Nous aimons la voix de Dieu. Je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. J'espère que nous le faisons tous, mais il y a probablement des personnes qui ne le font pas. Nous aimons le sabbat, par exemple. Nous aimons les jours saints, pour bien plus que les aliments que nous pouvons manger et les divertissements que nous pouvons avoir pendant la fête des tabernacles, peut-être aller ici ou là, ou recevoir des gens. Nous aimons ces fêtes pour bien plus que cela. Nous les aimons à cause de la connaissance que Dieu nous donne. Nous les aimons parce que nous voyons des choses que nous pouvons changer, que nous pouvons et devons changer dans nos vies. Et nous commençons à faire des changements, en particulier pendant la Pâque et les jours des pains sans levain. Et nous nous rendons compte à quel point nous ne sommes pas à la hauteur. La Pentecôte nous enseigne donc que le Christ peut et doit demeurer en nous par la puissance du Saint-Esprit. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, il est dit que nous sommes participants de la nature divine. Nous pouvons participer à ce qu'il est, à la nature même de Dieu. C'est ce qu'il fait en nous. Vous savez, le temps vient où cette nature divine en nous sera transformée en un corps divin. Ce matin encore, je pensais à cela, à ce que ce sera. Si nous avons le privilège de vivre jusqu'au retour du Christ, jusqu'à ce que la septième trompette soit sonnée, comment ce sera d'être comme je suis en ce moment et comme vous êtes, et soudain, nos corps se transforment en quelque chose de totalement différent. Il n'y aura plus de douleur, plus de faim. Soudain, notre vue deviendra meilleure, notre oui sera parfaite. Tout en nous changera instantanément. Qu'en est-il de ceux qui seront dans les tombes? Probablement beaucoup d'entre nous, à cette fête des tabernacles, seront dans la tombe à ce moment-là. Je dis nous, je ne sais pas. Aucun d'entre nous n'en est sûr. Certains le savent probablement en raison de leur situation et du temps dont ils disposent. Vous en avez peut-être une idée. S'endormir pendant cette vie, puis se réveiller dans ce rêve, pour ainsi dire, sortir soudainement du sol, à quelque endroit que ce soit, peut-être que vos cendres ont été enterrées ou dispersées, qui sait, vous revenez à la vie dans un changement total, avec un nouveau corps. L'Esprit de Dieu a conservé ce que vous étiez, votre identité propre. C'est merveilleux. Et il n'y a aucun prix possible à payer pour avoir ce privilège, si ce n'est de mettre à mort notre ancien moi. Dans le psaume 16, je vais le lire ici pour gagner du temps. Psaume 16, 10 à 11, il est dit, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Bien sûr, cette prophétie concerne le Christ. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. » Dieu va nous montrer le chemin qui mène à la vie. Et il dit, « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Mais c'est plaisir pour toujours, la plénitude de la joie. Ce n'est pas d'être assis là à regarder le visage de Dieu comme un petit chien qui regarderait le visage de Dieu, se sentant merveilleusement bien, ayant de la joie, ressentant du plaisir, peu importe ce que c'est. C'est pourtant l'espoir de nombreuses personnes dans ce monde. La vision béatifique, regarder Dieu pour toute l'éternité. Un peu comme une sorte d'effet de drogue, un trip au LSD. Ce n'est pas ce que Dieu nous offre. Oui, il y aura du plaisir et de grandes joies, mais ce sera dans l'activité, faire des choses, aider tout d'abord ce monde à être transformé, la joie de voir les êtres humains se repentir, changer, voir leur transformation, tout comme pour votre enfant, vous le voyez grandir, mûrir et finalement devenir un individu capable de vivre seul, de se marier à son tour, d'avoir des enfants et des petits-enfants. La joie que vous ressentez dans tout cela. Mais bien plus encore, c'est une chose merveilleuse que Dieu nous offre, le fait que Dieu nous appelle à faire partie de sa famille. Le jour des expiations et la fête des tabernacles suivent de très près la fête des trompettes dont nous avons entendu parler ces dernières semaines. Nous avons entendu parler de la fête des trompettes. Nous avons eu des sermons à ce sujet. Le jour des expiations est un moment où cet être spirituel qui fait tant de dégâts sera écarté. et la fête des tabernacles. Vous avez eu droit à de nombreux sermons sur le sujet. J'espère que vous les avez trouvés très enrichissants et très utiles. J'espère qu'elles changeront votre vie, que vous ne serez plus la même personne après la fête. Nous avons eu aujourd'hui un merveilleux sermon sur la signification de la fête des tabernacles. Non, je suis désolé, pas la fête des tabernacles, mais le dernier grand jour. J'espère que la signification de ce jour nous a été expliquée de manière à ce que nous puissions la comprendre et l'apprécier. Ce que je dis, c'est qu'il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que certains ne seront plus là l'année prochaine. Tout comme c'est arrivé il y a 60 ans. Il y a des gens qui abandonnent la vérité. Ils se détourneront de la vérité. Ils vont peut-être s'enliser dans l'amertume envers un ministre, envers une autre personne de la congrégation, ou peut-être se laisseront-ils simplement entraîner dans les voies de ce monde. Comme pour la semence jetée parmi les épines, ils se laisseront entraîner dans les choses de ce monde et ils s'éloigneront. Il y en aura. J'aimerais pouvoir dire que ce ne sera pas le cas, mais cela a toujours été le cas. Chaque année, quelque part, certaines personnes choisissent de partir. J'espère qu'ils seront très peu nombreux, mais il y en a qui le font. Et bien sûr, il y aura ceux qui, comme cela s'est produit dans l'Église universelle de Dieu, ont connu une apostasie massive. Je ne pense pas que cela se produise à l'heure actuelle. Il ne faut pas insister là-dessus. Rappelez-vous qu'après Moïse, Josué est arrivé. Non seulement Josué, mais tous les anciens qui étaient avec lui ont continué dans la voie de Dieu. Cela ne signifie pas qu'à chaque fois qu'un dirigeant meurt, l'Église doit tomber dans l'apostasie. Ce fut souvent le cas, mais pas toujours. Parfois, l'Église a même prospéré pendant une longue période. Mais nous avons des personnes très fidèles qui ont passé par une apostasie, qui ont vu tout cela et qui, espérons-le, ne referont pas la même erreur, et j'espère que ce n'est pas non plus votre cas. Mais la bonne nouvelle, c'est que la plupart d'entre vous seront là. La plupart d'entre vous seront là l'année prochaine. Mais même ceux qui sont ici ne doivent jamais se reposer sur leur laurier. Souvenez-vous de la femme de Lot. Nous avons cet avertissement. Et je dirais, rappelez-vous de ce qui s'est passé dans l'Église universelle de Dieu. Peut-être devrions-nous avoir un sermon à ce sujet, parce que beaucoup de gens n'ont pas vécu cette époque de l'Église, parce que cela s'est passé il y a plus de 30 ans. Donc, beaucoup de gens, plus jeunes, ou qui sont arrivés plus récemment, ne comprennent pas vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là. J'aimerais lire cet extrait de la brochure « Aujourd'hui est-ce le seul jour de salut » du Dr Meredith. C'est un peu long, mais j'aimerais le lire. À la page 7. Mais être sauvé et devenir fils de Dieu à part entière, dans son royaume éternel, dépasse toute compréhension humaine. Comprenez bien ceci. Il dit, il ne s'agit pas d'accepter Jésus au cours de réunions vivement émotionnelles. Ce n'est probablement pas ce qui vous est arrivé, mais il ne s'agit pas non plus de se contenter, d'adhérer à une église. C'est parfois ainsi que les gens voient les choses. Ils veulent adhérer à l'Église. En fait, nous nous sommes efforcés de ne pas utiliser cette terminologie. Nous ne rejoignons pas l'Église. Nous y sommes placés lorsque Dieu nous donne son esprit. Il faut d'abord qu'il nous appelle et qu'il nous accorde la repentance. C'est son travail. Ensuite, nous devons continuer à vivre de cette manière, avec Jésus-Christ vivant en nous, par la puissance de son Saint-Esprit. Il ne s'agit donc pas simplement d'adhérer à une Église. Il faut faire preuve d'une entière soumission au Dieu de la Bible, par une relation personnelle avec le véritable Jésus-Christ. C'est une question de soumission sincère et personnelle, dans l'esprit et dans le cœur, à la volonté de Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, afin qu'il puisse vivre sa vie en nous. Comme l'apôtre Paul nous dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. Il est possible de développer en nous avec le temps le caractère de Dieu. Le véritable chrétien avec le Christ vivant en lui, arrive à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est de cette manière prescrite par Dieu qu'il devient un authentique vainqueur. En effet, grâce au Christ qui vit en lui, le chrétien parvient à se dominer progressivement, à vaincre le monde qui l'entoure et à vaincre Satan, le diable. Alors, il sera de loin mieux préparé à la vie éternelle dans le royaume de Dieu que s'il s'était contenté d'être sauvé ou de se joindre à une église, comme l'on suppose traditionnellement. Dans Hébreux 6, Hébreux chapitre 6, et je commencerai au verset 7, il est dit, « Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. » Verset 8, « Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. » Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Beaucoup d'entre vous ont travaillé, non pas pour le salut, mais pour la récompense, en s'appliquant à vaincre et à devenir une personne différente, de plus en plus semblable au Christ. Il dit, « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Vous faites beaucoup d'œuvres merveilleuses. Beaucoup d'entre vous le font. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous ne faiblissiez pas, que vous ne baissiez pas les bras en vous disant « Je peux ralentir, me reposer maintenant » et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Nous espérons vous voir tous à l'un des sites de fête l'année prochaine. Mais si vous n'allez pas au même site que moi ou que ceux qui vous entourent en 2026, et peut-être que nos routes ne se croiseront pas avant la venue du royaume de Christ, mais nous nous réjouissons déjà de vous voir lorsque la septième trompette sonnera, avec tout ce que cela représente. Matthieu 25, verset 21, je vais le lire. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Quelle meilleure parole pourrions-nous entendre lorsque la septième trompette retentira que ces mots, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bon voyage de retour. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine avec plaisir. »